monde durable. Déjà demain, les territoires face au changement climatique.
Une collection de reportages à la rencontre de celles et ceux qui transforment nos façons d'habiter, de vivre et de faire territoire.
Bonjour à toutes et à tous. Comment le réchauffement climatique à l'œuvre peut expliquer le phénomène des maisons fissurées ? En France, près de 12 millions de maisons individuelles seraient potentiellement concernées par ce phénomène, lié directement au retrait et au gonflement des argiles souterrains. Nous en parlerons dans quelques minutes avec Régis Mourgue, enseignant-chercheur en géosciences, spécialiste de la mécanique des roches et des processus de fracturation à l'Université du Mans. Mais avant, direction la commune d'Ivry-l'Évêque dans la Sarthe à la rencontre d'Elisabeth Guittet, une habitante dont la maison est impactée par les fissures. Rencontre également avec Dominique Goldstein, vice-présidente de l'association Urgence Maison Fissurée, qui accompagne les victimes de ce phénomène dans toute la France. C'est un reportage signé Benoît Porcher de RCF Sarthe.
Eh bien, je m'en suis rendu compte en rentrant de vacances il y a 3 ans à peu près, où une grande fissure de ma porte d'entrée était apparue et où je ne pouvais malheureusement plus refermer la porte après. Donc, et puis, au fil du temps, des fissures un petit peu partout dans la maison, dans les chambres, sur le plafond, au niveau des poutres et puis surtout la cheminée. On a une très grande cheminée et là, elle s'est décollée du mur. Bien sûr, on avait interdiction de faire du feu avec.
On est juste à côté de la cheminée, donc on va y aller pour que vous nous expliquiez ce qui s'est passé en fait autour de cette cheminée et comment vous vous êtes rendu compte qu'elle est c'était pas son emplacement d'origine, en fait.
Elle s'est décollée du mur d'à peu près presque 1 centimètre à certains endroits. Et surtout, au niveau au-dessus du manteau, entre le manteau et le conduit, il y a à peu près, je dirais, 1,5 cm qui s'est décollé. C'est-à-dire que la cheminée s'est et enfoncée et décollée du mur en même temps.
D'accord. Et vous voyez vraiment la fumée, en fait, se dégager dans l'intérieur de la pièce.
Oui, on voyait la fumée sortir de la... des fentes, et puis on serait cru un petit peu dans un endroit où on fumait les saucisses, quoi. Ouais. C'était pas très agréable.
Et puis on voit en plus autour les fissures sur le mur juste à côté.
Ouais, si je lève le cadre là, vous voyez, c'est des fissures en escalier. Donc il y en a partout derrière, et puis la bibliothèque, ma foi, je ne l'ai pas défaite puisqu'elle est accrochée au mur. Donc, je ne sais pas, il y en a certainement, puisque ça part de là, ça va là. Donc.
Si on poursuit un peu le tour de votre maison, vous me disiez avant qu'on se rencontre des fissures qui sont surtout visibles à l'intérieur et pas à l'extérieur.
Plutôt à l'intérieur, oui, de quelques fissures à l'extérieur, mais toutes petites et autour, effectivement, des portes, des fenêtres. Par contre, un décalage au niveau du sol par rapport aux plinthes. Donc on voit effectivement que le sol certainement s'enfonce, que la maison s'enfonce.
Parce que le problème des fissures, ça ne touche pas que les murs. Toute la maison est concernée.
La structure de la maison, comme on est sur de l'argile, effectivement, quand il pleut, quand il fait sec, la maison réagit un petit peu différemment, quoi.
Vous me parliez de la porte d'entrée il y a quelques instants. Donc, comme vous le disiez, c'est vraiment à cet endroit-là qu'on est à l'intérieur. On a la porte d'entrée face à nous. On voit en haut à gauche la fissure qui est là. C'est vraiment là que ça a commencé.
Oui, c'est là que ça a commencé. Et comme c'est une porte cintrée, on ne pouvait plus du tout fermer la porte. Donc, la personne qui nous l'a montée était obligée d'enlever des sécurités pour que justement on puisse fermer correctement. Et puis après les fissures là dans la cuisine, des fissures traversantes, donc puis un petit peu partout, quoi.
Certains plafonds qui sont plus couverts de toile. Alors, c'est pas de votre fait, c'est les anciens propriétaires.
C'est les anciens propriétaires qui avaient mis de la toile au plafond, donc qui est peinte. Donc, sur le coup, on voit pas, mais après, on voit des cloques, on voit les fissures qui, surtout là dans la cuisine, vous avez vu, c'est quand même très significatif. Et puis, je dis un petit peu partout. Donc,
et vous en découvrez systématiquement, peut-être pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, tous les 15 jours.
Quand on observe. Quand on observe bien, on regarde, on lève les yeux, on se dit « Ah, tiens, il y a encore un truc là ». c'est malheureusement, je pense que ça ne va pas s'arrêter.
Le retrait-gonflement des argiles est relativement nouveau dans le paysage bâti, mais il s'accentue depuis quelques années, en Sarthe comme ailleurs, à cause des aléas climatiques de plus en plus nombreux et de plus en plus violents. Née en Sarthe, l'association Urgence Maisons Fissurées accompagne aujourd'hui des sinistrés de toute la France, dont le phénomène prend de l'ampleur. Dominique Goldstein en est la vice-présidente.
Nous, ce qu'il faut savoir dans le retrait-gonflement des argiles, on parle de retrait-gonflement, c'est-à-dire qu'on est touché quand il y a des grandes sécheresses et quand il y a des excès d'humidité, qui est typiquement le climat qu'on connaît depuis une dizaine d'années avec une accélération récente.
Sans être trop technique, mais en fait, quand il pleut, les maisons s'humidifient, ça fragilise les fondations, et avec des épisodes de forte sécheresse derrière, c'est en fait là, à ce moment-là que ça craque.
En fait, on est construit sur des éponges, donc c'est très facile de comprendre. Hein. Quand l'éponge est asséchée, bah, elle se rétrécit, donc les fondations, elles subissent une rétractation de l'argile, et quand d'un seul coup il y a trop d'eau, bah, comme une éponge gorgée d'eau, elle se gonfle, et donc la maison elle subit les aléas de retrait-gonflement des argiles. On a souvent parlé de sécheresse, parce que c'était le phénomène le plus impactant qu'on avait, mais aujourd'hui, on s'aperçoit, avec les inondations, avec les pluies incessantes, que nos maisons craquent autant avec la sécheresse que l'excès d'humidité. C'est vraiment l'alternance des deux, et surtout l'envergure de l'écart qui fait des fissures.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, ce phénomène n'est pas encore vraiment reconnu par l'État pour indemniser les victimes.
Alors, c'est plus subtil que ça. En fait, on a fait rentrer le RGA, donc retrait-gonflement des argiles, dans l'univers de l'indemnisation de la catastrophe naturelle. Et nous, à la UMF, on milite sur le fait qu'on ne veut pas être reconnu comme une catastrophe naturelle, puisque la notion de catastrophe voudrait dire quelque chose d'épisodique, soudain, violent, un petit peu comme un AVC. Nous, en fait, on voudrait être appelé sinistre climatique, puisqu'on est victime du dérèglement climatique, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus sournois, cumulatif, qui va commencer par un cheveu, une fissure comme un cheveu, et qui peut finir avec des étais. On est plutôt comme un cancer qui va venir nous ronger. Et donc, en fait, notre problème, c'est qu'on nous impose des règles qu'on ne peut pas respecter. C'est-à-dire les critères qui nous sont, notamment la datation, on voudrait que nos fissures soient arrivées comme une rivière qui sort de son lit, de telle date à telle date.
À partir du moment où ça commence, les premières fissures apparaissent, ça ne s'arrête jamais en fait.
Absolument. Les huisseries bougent, les sols bougent, etc. Donc nous, on n'a pas un phénomène où c'est arrivé ce jour-là, et puis bop, la rivière elle est rentrée, c'est fini. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans la bonne case. Pour nous, on doit vraiment être considéré comme un sinistre climatique et les règles doivent s'appuyer pour un sinistre climatique.
Et donc les personnes sinistrées doivent forcément miser, attendre le fait que leur commune soit reconnue en état de catastrophe naturelle. Et aujourd'hui en Sarthe, il n'y en a pas à ce niveau-là.
Alors on a un beau record pour 2024 et je pense que 2025 sera pareil. On a zéro reconnaissance de catastrophe naturelle RGA. En fait, déjà il faut que le maire de la commune ou la maire de la commune fasse une demande de reconnaissance. Il y a beaucoup de communes qui malheureusement le refusent. Ensuite, ça passe en commission. Sur le papier, on sait. C'est-à-dire, par exemple, la France est divisée en mailles de 64 km². Ça voudrait dire qu'on pense qu'une veine argileuse recouvre uniformément 64 km². Déjà, c'est absolument incompréhensible, puisque dans une même commune, il n'y a pas 100% de maisons qui sont touchées. On parle bien d'une veine argileuse, c'est-à-dire quelque chose d'un peu sinueux, on ne sait pas où elle passe. Et donc, déjà, on nous demande que 64 km² aient le même impact. Ensuite, on nous demande des critères d'évaporation de l'eau, qui est un critère qui a été fait pour l'agriculture, qui s'appelle SWI. Mais en fait, nous, on n'est pas un champ de carottes. Donc, l'évaporation, pour un agriculteur, on comprend, mais pour une maison avec une dalle en béton, on ne comprend pas. Donc, en fait, nous, on s'insurge contre tous ces critères qui ont été mis en place comme une sorte de barrage, en fait. Et on comprend pourquoi, pour éviter les indemnisations. Je veux dire, c'est très clair, quand même.
Justement, les indemnisations, si jamais, admettons, une commune est reconnue en état de catastrophe naturelle, ça ne suffit pas pour indemniser les propriétaires. L'assurance ne joue pas toujours le jeu derrière.
Et oui, parce que quand arrive enfin l'arrêté au journal officiel, on dit ça y est, c'est bon. Mais non, l'aventure continue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déclaré à l'assureur, et je rappelle aussi qu'il ne faut jamais déclarer à l'assureur avant l'arrêté publié au journal officiel, parce que certaines compagnies d'assurance se servent du fait qu'on a fait une déclaration avant l'arrêté, et donc disent que les fissures ne peuvent pas être liées au RGA. C'est des fissures d'autres raisons. Donc, l'assureur va dépêcher un expert qui va venir et qui va, sans aucune étude de sol, sans rien avoir à faire, juste en regardant, dire si c'est RGA ou pas RGA. Et s'il dit que c'est pas RGA, le dossier est terminé. Il n'a pas à amener une preuve. Donc, on peut faire appel à un expert indépendant qui va contredire, mais ça n'a aucun poids. Parfois, il peut y avoir une entente, j'ai bien parfois, mais elles sont assez rares. Et sinon, en dernier recours, il faut attaquer sur la compagnie d'assurance.
Des démarches longues et énergivores pour les propriétaires qui sont contraints de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête, comme Elisabeth Guittet, qui n'a pas d'autre choix que d'attendre.
Non, rien du tout, on attend. On va pas... Enfin, pour l'instant, moi, j'ai pas l'intention d'investir dans des travaux énormes sans aide. Hein. Moi, je n'ai pas personnellement les moyens de dépenser 5-6 000 euros pour une étude de sol, sans compter tout ce qui va avec après. Hein. On l'a acheté justement parce qu'on vieillissait et qu'on voulait un rez-de-chaussée et une maison facile à vivre. Si un jour on veut la vendre, on perdra certainement beaucoup.
Hein. Et vous connaissiez ce phénomène avant d'acheter cette maison et de vous rendre compte vraiment une fois à l'intérieur de ce qui peut se passer?
Pas particulièrement. Ouais. Oui, j'avais acheté une maison avant qui était au bord de l'Huisne, donc là, oui, les inondations, c'était plus dans mon... C'est vrai que je n'avais jamais vraiment pensé au retrait gonflé au Mont d'Argile.
L'association Urgence Maison Fissuré demande au gouvernement l'organisation d'un Grenelle du RGA pour que les propriétaires touchés soient reconnus comme des sinistrés climatiques avec des solutions d'indemnisation en dehors du circuit des assurances comme la création d'un fonds RGA. Une expérimentation est menée en ce sens par l'État dans 11 départements, mais aucun en Bretagne ou en Pays de la Loire.
À l'instant, ce phénomène des maisons fissurées avec ce reportage sur la commune d'Ivray-l'Évêque dans la Sarthe. Alors, pour bien comprendre ce lien entre ce phénomène et le réchauffement climatique, mais aussi entrevoir les solutions possibles pour au moins limiter ses effets, Benoît Porcher de RCF Sarthe s'est entretenu avec Régis Mourgue. Régis Mourgue est enseignant-chercheur en géosciences, spécialiste de la mécanique des roches et des processus de fracturation à l'Université du Mans.
Bonjour Régis Mourgue.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour démarrer, est-ce qu'on peut déjà peut-être commencer en donnant une définition du retrait gonflement des argiles?
C'est assez simple en fait. Il y a un certain nombre de sols en fait qui contiennent des argiles. Donc ce sont des minéraux en fait qui sont issus de l'altération d'autres minéraux, donc qui se forment à la surface de la Terre. Et en fait, dans ces minéraux, certains ont une capacité à absorber l'eau et à gonfler. Et du coup, lorsque vous avez des variations hydriques de votre sol, eh bien, vous avez des fenêtres de gonflement lorsque les argiles s'hydratent, ou de retrait. Donc du coup, elles se rétractent. Et donc du coup, ça provoque des mouvements de sol qui vont altérer les maisons.
Ce sont ces mouvements des sols qui en fait font bouger, si on peut dire ça comme ça, les fondations de nos maisons?
Exactement. Surtout si les fondations ne sont pas assez profondes, en fait.
Pas assez profondes, évidemment, construites sur des sols argileux, c'est surtout ça qui rentre en compte, hein, bien
exactement.
Sûr.
Exactement. En fait, ce qu'il faut, c'est que les fondations aillent plus profondément que la profondeur à laquelle le sol peut s'assécher. Et si c'est le cas, votre maison est préservée. Si vous êtes dans la zone où le sol est capable de s'assécher pendant une période assez longue, en fait, là, vous risquez d'avoir de la fissuration de vos maisons.
C'est un phénomène qui touche de plus en plus de propriétaires. Je le disais, près de 12 millions de maisons individuelles qui seraient concernées. Je mets du conditionnel parce qu'évidemment, c'est très difficile d'avoir des chiffres officiels. Mais comme je le disais en introduction, ce sont vraiment les conditions climatiques qui ont un impact direct en fait, sur ces mouvements de sol.
Oui, ce qu'on observe en fait, c'est que dans le futur, probablement, en fait, les périodes de sécheresse vont augmenter. La portion de territoire français touchée par ces périodes de sécheresse augmente, et en fait, du coup, mécaniquement, ça fait augmenter le nombre de maisons qui sont touchées, en fait. Donc c'est un vrai, vrai problème qu'on va avoir dans les années futures, puisque finalement, ça touche beaucoup de maisons qui ont été construites dans les années 80, qui sont des petites maisons individuelles. Donc, c'est la maison de tout le monde, en fait, hein, qui est touchée.
C'est ça. Puis, comme vous le disiez, vu comment ça se passe climatiquement parlant, ça ne peut que s'aggraver, finalement, dans les années qui viennent.
Exactement. Alternance de périodes sèches, périodes pluvieuses, c'est exactement ce qu'il ne faut pas pour ce problème-là, en fait.
Alors, est-ce qu'il y a des solutions qui existent pour, je dirais, réparer, entre guillemets, les fissures et les maisons qui sont déjà impactées aujourd'hui?
Alors, ce n'est pas très simple. Hein. Ça, c'est du point de vue vraiment de la construction. On peut essayer de mettre des micropieux sous les maisons pour stabiliser. Ensuite, il y a un gros travail, je pense, à faire sur la partie hydrique du sol autour de la maison, c'est-à-dire bien repérer tout ce qui va provoquer soit un assèchement accentué, par exemple la présence d'arbres et de racines proches d'une maison. Ça va pomper énormément d'eau dans le sol, donc vous allez accentuer le phénomène de sécheresse. Si vous avez des fuites d'eau sous votre maison, par exemple une canalisation percée, vous allez plutôt hydrater votre sol, alors qu'à côté, votre sol va sécher parce qu'il est au soleil. Si vous avez une mauvaise gestion de l'eau de pluie, également de votre toiture, là aussi, vous allez provoquer des variations hydriques. Ce qui est important, c'est maîtriser tout ça. Alors ça, c'est les solutions un peu douces. Après, les solutions lourdes, mettre des micropieux sous les maisons pour stabiliser, ça, c'est beaucoup plus cher. C'est du gros travail qui coûte cher aux assurances. Mais réellement, il n'y a pas d'autres possibilités. On traite également les argiles elles-mêmes en injectant des choses dans les argiles.
L'association Urgence Maison Visurée, que de la résine en fait, pouvait s'ingérer directement dans les fissures.
Tout à fait. Dans les fissures et dans le sol lui-même.
D'accord.
Pour éviter le phénomène de retrait gonflement. En fait.
Mais tout ça, en fait, ce sont des solutions qui ne sont que temporaires et le phénomène peut revenir finalement.
Et là, oui. Tout à fait.
Alors, comment les futures constructions en fait peuvent anticiper, voire éviter ce phénomène de retrait gonflement?
Alors, il faut d'abord faire une étude géotechnique, et ça, la loi Elan maintenant l'impose, hein, pour toutes les maisons qui sont dans des zones à exposition moyenne ou forte, vous êtes obligé de faire une étude préalable.
Alors, étude géotechnique, ça consiste en quoi?
Alors, c'est une étude de sol, tout simplement. Donc, il y a un technicien qui va regarder la nature du sol, s'il y a une présence d'argile, donc il existe des tests, hein, il va pouvoir faire des prélèvements du sol. Il amène ça en laboratoire et puis il y a un certain nombre de tests qui va dire s'il y a beaucoup d'argile dans votre sol et si ces argiles sont aptes au retrait, au gonflement. Et à partir de ça, il va donner des préconisations sur la construction, notamment la profondeur à laquelle vont devoir s'enraciner les fondations de la maison. Ça, c'est vraiment d'un point de vue constructif. Après, je pense qu'il y a également un gros travail à faire sur l'environnement même du terrain, de la maison, la présence d'arbres, les microtopographies qui vont gérer les écoulements d'eau vers la maison ou les éloigner. Et tout ça, ça participe aux variations hydriques de votre sol, en fait. Donc, tout ça, c'est à étudier dans l'étude géotechnique, en fait.
Ouais, en fait, faut jouer sur les variations d'humidité, en fait. C'est ça l'idée, ouais.
En fait, l'idée, si on arrivait à maintenir une humidité constante dans votre sol, en fait, vous n'avez pas le problème. Donc, tout ce qui va pouvoir limiter toutes les variations d'humidité, ça va être bon pour votre construction.
Et il y a des techniques qui existent pour ça aujourd'hui?
Alors, c'est pas simple. On peut mettre des géomembranes, par exemple, qui vont limiter l'évaporation. La présence de terrasses ou de trottoirs autour de votre maison limite l'évaporation. Donc ça, c'est toujours mieux. Par contre, il faut faire attention à ce que votre solution n'aggrave pas le problème dans l'autre sens. Si vous limitez l'évaporation, il ne faut pas non plus renfermer trop d'eau proche de votre maison. Ça, on le sait, hein, sur des murs assez anciens, ils ont tendance à être pris par des remontées capillaires. Il y a des remontées capillaires, hein, dans les murs anciens. Et si vous mettez des trottoirs tout autour, vous imperméabilisez tout autour, en fait, la remontée capillaire se fait via les murs eux-mêmes. Donc, vous accentuez le problème de cette remontée capillaire en essayant de résoudre votre problème de retrait gonflement. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait, en fait.
Il faut faire attention à ne pas créer d'autres problèmes en résolvant certains, en fait. C'est un peu, on est un peu sur une balance, quoi.
Tout à fait. C'est comme pour la gestion des eaux pluviales. En fait, de plus en plus, on préconise de traiter les eaux pluviales au plus proche de l'endroit où elles tombent, donc du coup sur votre terrain lui-même. Donc essayez d'infiltrer dans votre terrain. Mais si vous faites une infiltration d'eau proche de votre maison, bah, ça, c'est pas bon du tout pour votre problème de retrait gonflement. Donc il faut vraiment faire attention en essayant de trouver des solutions à certains problèmes. On en provoque d'autres. Il faut voir la chose dans sa globalité, en fait.
Donc, faut que, en fait, les futurs propriétaires fassent attention s'ils font le choix de construire une maison. Mais est-ce que le secteur de la construction doit aussi s'adapter à ces faits-là?
Tout à fait, tout à fait. Je pense que le futur, c'est peut-être des maisons un peu plus légères, peut-être plus souples. Parce que c'est vrai que les maisons de parpaings bétonnés, ça, elles sont très très rigides. Donc le moindre mouvement provoque de la fissuration.
C'est très typique des années 70-80 que vous évoquiez.
Exactement.
Tout à l'heure. Ouais.
Exactement. Ouais. Une maison en bois, on peut imaginer qu'elle va être un petit peu plus souple et va accommoder un peu mieux une déformation du sol, par exemple. Ça peut être effectivement des pistes pour le futur.
En résumé, là, qu'est-ce que vous conseilleriez à des personnes qui peuvent vous entendre, qui pourraient s'inquiéter de ce phénomène ou alors qui sont déjà concrètement aujourd'hui concernées? Quels sont les bons conseils à leur donner pour y faire face, je dirais?
Alors, je pense qu'il faut, pour les futurs acquéreurs, il ne faut pas sous-estimer le problème. Parce que effectivement, dans les 30 dernières années, on n'a pas eu trop de problèmes, et on le voit hein, depuis 2018, ça s'est vraiment aggravé. Donc, ne pas sous-estimer au moment de l'achat d'une maison, si vous êtes sur un risque notamment fort hein, de retrait gonflement, peut-être faire une étude de terrain, voir quels sont les facteurs qui pourraient être aggravants sur votre terrain, notamment la présence de grands arbres avec des racines qui vont passer sous la maison. Ça, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, il existe des systèmes hein, de anti-racinaires, donc qui empêchent la propagation des racines. Donc, ça, il faut faire attention. Donc, faire au moins une étude de ça au moment de l'achat d'une maison. Après, pour les personnes qui ont déjà des fissures, c'est plus délicat à dire. Hein. C'est souvent un long parcours avec les assurances quand elles veulent bien prendre en charge. Donc là, je leur apporte tout mon soutien parce que c'est pas des moments faciles.
C'est ça, parce que aujourd'hui, enfin en tout cas au moment où l'on se parle, pour avoir droit à une indemnisation, il faut déjà que la commune soit reconnue en état de catastrophe naturelle. Et même ça ne veut pas dire une indemnisation de l'assurance. Donc c'est un petit Exactement. Parcours du combattant.
Exactement. Et ça peut durer des années et des années.
Eh bien, merci beaucoup Régis Mourgue. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en géosciences, spécialiste de la mécanique des roches à l'Université du Mans. Merci beaucoup.
Au revoir. Merci.
Vous venez d'écouter Déjà demain, les territoires face au changement climatique.
Une collection de reportages produites par la CorLab et la FRAP avec le soutien de la Fondation de France. Cette série s'inscrit dans le cadre du projet Ondes Durables.
Un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir des alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, groupe Caisse des dépôts.